France Culture. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Il est l'une des voix internationales les plus marquantes de ce siècle, un penseur influent dont les analyses sont toujours très attendues. Chercheur canadien d'origine tchèque, il questionne nos besoins en matière d'énergie et d'alimentation, nos objectifs de neutralité carbone sur une planète en surchauffe, aux ressources limitées et qui ne peut répondre aux appétits grandissants de l'humanité. Bonjour Václav Smil.
Good morning.
Merci de nous accorder ce long entretien en exclusivité. Vous êtes spécialiste mondial de l'énergie et des ressources, professeur émérite à la Faculté des études environnementales de l'Université du Manitoba à Winnipeg au Canada. Et vous n'avez jamais appartenu à aucun parti politique en scientifique attaché à votre neutralité. Après les livres 2050, Pourquoi un monde sans carbone est presque impossible, paru chez ARPA, et Comment marche vraiment le monde, édité chez Cassini, vous nous offrez un nouvel ouvrage sur l'alimentation, intitulé Comment nourrir le monde, et paru aux éditions ARPA, des textes pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et son devenir. À nos côtés, l'interprète Michel Zlotowski, merci d'être avec nous. Et bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Célestine Babinet avec Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Anne Delaveau et Timothée Fernandez-Lopez, à la réalisation Alexandra Malka et à la technique Ludovic Auger. Václav Smil, vous vivez au Canada, un pays victime des effets du réchauffement climatique. Est-ce que là où vous résidez, vous observez des conséquences spécifiques directes du changement climatique ?
Je peux vous parler très concrètement de l'endroit où je vis. Regardez les cartes. Sur une longue période, disons 20, 30, 50 ans, et vous verrez que la région du monde où je vis, en plein centre de l'Amérique du Nord, à peu près sur le 50e parallèle, on est à la même latitude que Vancouver, Londres, Prague. Mais notre climat est totalement différent. C'est un climat continental très rude. Jusqu'à présent, les seuls signes de changement climatique qu'on a observés chez nous, c'est que les nuits deviennent plus chaudes et que les premières gelées d'automne, qui arrivaient normalement début septembre, arrivent maintenant plutôt fin septembre ou début octobre. L'été est un peu plus long. À part ça, on n'a pas vu de changement massif. On n'a pas des périodes de deux semaines à plus de 40 degrés l'été. On a toujours nos hivers très froids, à moins 30 degrés, ou moins encore. On fait partie du monde, bien sûr, mais on ressent très peu le changement climatique, à part ces nuits plus chaudes et cet automne un peu retardé.
Alors vous êtes souvent présenté comme un ultra-réaliste qui combat les mensonges, les fausses solutions, les faux espoirs, les discours faciles, quelles que soient les tendances. Est-ce que c'est ainsi que vous, vous vous définissez ?
Oui. Le réchauffement climatique, c'est global, c'est un phénomène mondial. Mais la planète est immense, avec d'énormes différences, climats continentaux, méditerranéens, désertiques. Il y aura des réactions différentes, des complications différentes, des conséquences différentes partout. C'est un processus extrêmement complexe. Et moi, je refuse tout simplement de simplifier, que ce soit l'énergie, production alimentaire ou le climat. Je refuse d'être lié par des slogans du type « pas de problème ». Bien sûr, c'est un problème. C'est une catastrophe, on sera tous morts en 2030. Bien sûr qu'on ne sera pas tous morts en 2030. Un peu de nuance, s'il vous plaît. On devrait en parler comme des adultes responsables, pas comme des primitifs. Après tout, vous êtes en France, les Français, depuis 300 ans. Les scientifiques français essayent d'apporter de la rationalité, pas seulement de l'émotion. C'est comme ça qu'on devrait traiter ces sujets, en adultes.
Alors, pour mieux comprendre qui vous êtes, justement, et ce que vous nous donnez à comprendre avec vos ouvrages, petit retour en arrière, si vous nous le permettez. C'était en août 1968, avec le journaliste Alain Fernbach, qui se trouvait le long de la frontière entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie après le printemps de Prague.
La Tchécoslovaquie est envahie par les Russes,
par les Polonais, par les Hongrois et par l'Allemagne de l'Est.
Oui.
Vous venez de traverser plusieurs villes. Vous avez vu beaucoup de troupes soviétiques.
À la sortie de Bratislava, avant le pont, nous avons vu des chars, beaucoup de chars.
Vous avez vu aussi des barricades.
Non, pas de barricades, mais les pavés levés.
Toutes les radios et les télévisions maintenant sont prises. Seule reste libre Radio Bratislava. Vous avez pu tout à l'heure l'écouter.
Jusqu'à cet après-midi, Radio Bratislava était encore libre. Autrement, tous les postes, télévision et radio sont occupés.
C'est ce qu'ils ont dit à la radio tchécoslovaque.
Comment réagit la population?
La radio les demande tout le temps, chaque instant, de rester calme, car c'est leur seule chance de se tirer de ce qui se passe actuellement.
Vous avez laissé de la famille là-bas en Tchécoslovaquie?
Oui, à Donetsk, à Streda.
Avec un cœur bien serré. Oui.
Comment voit-il la situation?
Mais les pauvres, vous savez.
Très mal, ils sont très affolés.
Mais vous pensez que la population va écouter jusqu'au bout les appels au calme de la radio?
Je pense, oui. Oh, parce que la jeunesse reste calme.
Oui, oui.
Enfin, pour tout le monde, c'était une surprise.
Tout le monde.
Une surprise générale.
Personne s'y attendait.
Oui. C'est affreux de voir tout ça. C'est tellement triste.
Ah, c'était une autre époque de ma vie. Bien sûr que j'ai vécu ça. On a eu de la chance, parce que je n'ai pas paniqué. Ma femme était en dernière année de médecine, et si on était parti plus tôt, elle aurait probablement jamais pu finir, elle aurait dû recommencer à zéro. Ses 4 ans et demi n'auraient pas été reconnus. On a attendu jusqu'en juillet 69. Et nous avons pu partir le 1er juillet 1969. Quelques semaines plus tard, ils ont finalement fermé la frontière. En Hongrie, en 1956, ils avaient fait pareil. Ils n'avaient pas fermé la frontière tout de suite. Donc nous, on est partis en juillet, et en octobre, la frontière était fermée pour 20 ans. On a énormément de chance de pouvoir partir et recommencer une nouvelle vie.
Le printemps de Prague qui a commencé le 5 janvier 1968 et cette reprise en main par les troupes du pacte de Varsovie ont-ils déterminé, Václav Smil, ce que vous êtes devenu?
Je ne dirais pas oui ou non parce que j'ai toujours voulu partir. J'ai voulu partir dès l'âge de 14, 15 ou 16 ans. Je voulais quitter le pays. Parce que je ne voulais pas vivre dans ce que j'appelais une cage communiste. Ma décision de partir était prise bien avant que l'occasion se présente. Et à 15 ou 16 ans, je ne savais pas, je n'avais aucune idée du moment quand l'occasion viendrait, mais j'espérais qu'elle viendrait. Et j'ai eu de la chance qu'elle arrive et qu'on puisse partir. C'était simplement l'aboutissement d'un souhait de très long terme. Pas vraiment planifié, mais désiré.
Donc vous aviez 20 ans, vous êtes parti en 1969, vous et votre femme, Eva, qui finissait ses études de médecine, et vous êtes devenu géographe, enseignant en sciences de l'environnement. Vous avez commencé aussi une carrière d'écrivain dans les années 70, après les chocs pétroliers de 1973 et 1975. Une époque, les années 70, au cours de laquelle la question énergétique était une préoccupation, mais pas encore celle du réchauffement climatique. Et pourtant, vous, vous étiez sur ce terrain-là.
En fait, quand j'étais à la faculté des sciences naturelles de l'université Charles, j'ai aussi été formé comme géologue. Les géographes ont une approche très ouverte. On peut toucher à plein de choses. Et moi, je ne me suis jamais vraiment défini comme ceci ou cela. La meilleure façon de me décrire, je serais par excellence un scientifique interdisciplinaire. Si je peux le faire, je le fais. Si je peux pas, je suis très critique envers moi-même, mais je le fais pas. Que ce soit de l'économie, de la géologie, la biologie, les études de l'énergie ou l'ingénierie mécanique, si j'en ai besoin pour mon travail, que je suis capable de le faire, alors je le fais. Je me considère pas comme expert dans aucun domaine précis. En ce qui concerne l'énergie, j'avais fait un choix très précoce. J'ai commencé à étudier l'énergie à l'université dès 1964. Donc quand on est arrivé aux États-Unis en 69, je me considérais déjà comme expert en énergie. À l'époque, c'était 3 ans avant que l'OPEC décide de la hausse des prix en 73-74. Nous étions très peu, parce que personne, avant que les prix de l'énergie n'augmentent, ne s'intéressait à l'énergie, parce qu'il y en avait beaucoup. Et puis l'OPEC a augmenté les prix et tout le monde est devenu expert du jour au lendemain. À ce moment-là, moi, j'étais déjà pour de vrais experts.
Et là, on retrouve votre méthode Václav Smil, une méthode qui s'appuie sur des analyses, des données rigoureuses. Et donc, concernant l'énergie, les énergies, justement, on peut mentionner que les références à la neutralité carbone, à la transition énergétique, aux zéro émissions nettes d'ici 2050 sont aujourd'hui devenues quotidiennes. Pour vous, c'est un vœu pieux, mais à l'heure, hein, selon vous, Václav Smil?
Bah, tout dépend de ce qu'on regarde. Même s'il n'y avait pas de réchauffement climatique, même s'il n'y avait pas de dioxyde de carbone issu des combustibles fossiles, pas du tout de réchauffement climatique, on arriverait quand même à un moment où on arrêterait d'utiliser les énergies fossiles. C'est aussi simple que ça. Pas parce qu'on va en manquer. On ne peut pas en manquer. Il y en a énormément dans le sol. Mais on n'exploite pas des gisements minuscules. On ne va pas creuser pour trouver 2 mètres cubes de pétrole. C'est trop peu. Ni ceux qui sont trop profonds. Il y a beaucoup de charbon à 3 kilomètres sous terre. Mais on n'ira pas le chercher. On ne manquera pas d'énergie fossile parce que les énergies fossiles auront disparu, mais parce qu'elles seront trop chères à extraire. Donc, même sans réchauffement climatique, l'ère des combustibles fossiles devra se terminer un jour ou l'autre. Quand? On ne sait pas exactement, parce que ça, c'est de la prévision à long terme. Ça, c'est un problème. Ben, ça ne sera plus une civilisation actuelle fondée sur les combustibles fossiles. Mais à quelle vitesse on peut faire la transition mondiale vers un avenir sans énergie fossile? Ah, ça, c'est une chose tout à fait différente. Et pour l'instant, année après année, malgré toutes les prévisions contraires, on brûle de plus en plus d'énergie fossile. On sait même aujourd'hui avec certitude que 2025 a encore été une année record pour la combustion de charbon en Chine. La Chine a brûlé plus de charbon l'an dernier qu'en 2024. Un jour, bien sûr, ça s'arrêtera, mais on ne sait pas quand. Aujourd'hui encore, en tant que civilisation, 80% de l'énergie primaire mondiale vient des fossiles. Charbon, pétrole, gaz, c'est la réalité avec laquelle on doit composer.
Donc, si on vous suit bien, Václav Smil, le zéro émission nette d'ici 2050, c'est un leurre total. Mais à quel point sommes-nous devenus dépendants de ces énergies fossiles? Expliquez-nous dans le détail pour justement donner à comprendre ces limites à la transition.
Et tout ça est extrêmement complexe parce que l'énergie est partout. Chauffer sa maison, cuisiner, partir en vacances, prendre l'avion pour l'étranger, produire de l'acier, des engrais, cultiver de quoi se nourrir. Tout est conversion d'énergie. En fait, mon choix serait de ne pas penser à l'économie en termes financiers. Mais toute action économique est une conversion d'énergie. C'est ça. Sans énergie, on ne peut rien faire. Donc, ça dépend. Les voitures électriques, par exemple, ça marche très bien en Europe, surtout en Norvège, parce que c'est plus simple là-bas. Toute l'électricité en Norvège vient de l'hydroélectricité, comme dans la région où je vis. C'est facile, l'électricité est bon marché, donc on peut convertir tout le monde à l'électrique. C'est beaucoup plus compliqué de convertir les gens à la voiture électrique en Allemagne, à cause de la longue tradition du moteur à combustion interne. Après tout, ce sont les Allemands qui ont inventé ce moteur, pas les Américains ou d'autres. Certaines choses sont faciles à changer. Les véhicules électriques, c'est relativement simple. On sait comment les fabriquer. D'ailleurs, vers 1900, les premières voitures populaires étaient électriques, pas à combustion interne. Mais ça a vite changé. Donc les voitures électriques, c'est facile. En revanche, quand on touche au fondement même de la civilisation, là, c'est beaucoup plus difficile. L'acier, les engrais à base d'ammoniac, sans lesquels on ne pourrait pas nourrir 8 milliards d'individus, le ciment, les plastiques, rien de tout ça peut être produit uniquement avec de l'énergie solaire. Il faut des combustibles fossiles. Un jour, ça sera remplacé, mais pas rapidement. Parce que d'énormes quantités d'énergie fossile sont nécessaires pour produire de l'acier, des engrais, des plastiques ou du ciment. Il y a donc des domaines où la décarbonation peut aller très vite. comme le chauffage domestique dans les régions ensoleillées ou venteuses, ou les voitures électriques, et d'autres où la décarbonation avancera très lentement, comme l'acier, les plastiques ou les engrais.
Alors, il faut rappeler aussi que tout repose sur les énergies fossiles, parce que nous brûlons chaque année 10 milliards de tonnes de carburant fossile. Nous sommes donc loin d'un abandon rapide des énergies fossiles. Et ces produits qui ne sont pas durables, que vous venez de mentionner, nous en avons besoin pour produire justement les énergies renouvelables, comme les éoliennes par exemple. Donc rien n'est idéal, Václav Smil. Une énergie ne chasse jamais une autre, c'est ça? Nous sommes dans un millefeuille d'énergie?
Vous voyez, même maintenant, les gens ne se rendent pas compte que même aujourd'hui, on pourrait en fait vivre dans un présent sans carbone. Mais il faudrait deux choses. Il y a largement assez de soleil et largement assez de vent. Bien sûr, c'est intermittent. Le soleil ne brille pas tout le temps, le vent ne souffle pas tout le temps. Mais ce n'est pas grave. Si on avait des moyens de conversion vraiment bon marché, très bon marché, comme des photovoltaïques, des panneaux très bon marché, ce qu'on a déjà, et des éoliennes bon marché, ce qu'on a presque. Si on pouvait produire autant d'électricité que possible, dès que le soleil brille ou que le vent souffle, et que l'on pourrait la stocker, cette électricité, ce dont on aurait besoin serait un stockage massif. On pourrait avoir, théoriquement, dès demain, un monde vert sans carbone. On aurait un stockage énorme d'électricité produite de façon intermittente par le soleil et par le vent. On la stockerait et on l'utiliserait quand on a besoin. Mais voilà le problème. Ce stockage devrait être énorme, vraiment gigantesque. Aujourd'hui, le stockage par batterie, c'est rien. C'est la taille d'un magasin de jouets. Franchement, c'est rien. Parce que si on réfléchit à ce qu'on a vraiment besoin en stockage d'électricité, imaginez Paris, Tokyo, New York, qui devrait fonctionner uniquement avec de l'électricité stockée sur des batteries. Ce sont des mégapoles de plus de 10 millions d'habitants. Il faudrait des capacités de stockage colossales pour quand il n'y a ni soleil, ni vent, pour tenir plusieurs jours, voire une semaine entière. Et là-dessus, on est encore très très loin de ce stockage. Donc oui, on pourrait avoir une civilisation sans carbone dès aujourd'hui. On pourrait avoir une électricité très bon marché produite par le soleil et le vent. On y est presque. Mais on n'a pas encore de stockage d'électricité à la fois suffisamment massif ou suffisamment peu coûteux pour alimenter pendant des jours, voire des semaines, nos villes géantes et nos industries.
Et dans ce tableau, nous ne sommes pas seuls à décider de la transition énergétique, puisque nous dépendons d'autres pays comme la Chine, l'Inde, l'Afrique, qui entendent bien poursuivre aussi leur développement.
C'est quelque chose de totalement différent. À nouveau, là, c'est un problème mondial. Mais il n'y a pas de moyenne mondiale. C'est tellement évident que ça devient presque ridicule quand les gens parlent de global, global. La Chine, l'Inde, l'Afrique subsaharienne, et bien entendu aussi l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon. Tous ces endroits sont à des stades de développement totalement différents, avec des attentes très différentes, et des volontés politiques et électorales très différentes pour traiter ces questions. Prenez le Japon. Le Japon importe pratiquement toute son énergie. Et pourtant, il dépend aujourd'hui des combustibles fossiles autant qu'il y a 20 ans. Ils ont très peu développé les renouvelables parce qu'ils ont une énorme base industrielle qui dépend du gaz naturel, du charbon et du pétrole. La Chine, c'est un phénomène que beaucoup de gens ignorent ou préfèrent ignorer. La Chine est peut-être le grand pionnier des renouvelables. Ils ont installé plus de photovoltaïques que n'importe qui et construisent des parcs éoliens à un rythme record. On dit, regardez le photovoltaïque chinois, c'est bon marché, c'est massif. Mais en même temps, la Chine est de loin le premier producteur mondial de charbon. Et la Chine en brûle plus de 4 milliards de tonnes par an. Et ben, il faut tenir les deux bouts en même temps. D'un côté, le plus grand producteur de panneaux solaires et de voitures électriques, et de l'autre, le plus grand producteur de charbon et d'électricité à base de charbon. Quant à l'Afrique subsaharienne, il faut que je rappelle une chose aux gens. La plupart des pays de cette région consomment aujourd'hui, par habitant, autant d'énergie que l'Europe entre 1850 et 1880. Ces populations doivent accroître leur consommation d'énergie de plusieurs ordres de grandeur, pas juste doubler ou tripler, mais multiplier par 10, voire plus. Des stades de développement énergétique différents, implique des réponses différentes, des attentes différentes. Il n'y a pas de réponse globale unique.
Ce que vous nous dites, Václav Smil, c'est que nous n'atteindrons pas la neutralité carbone d'ici 2050.
Oui, théoriquement, tout est possible. On peut toujours revenir en arrière si on est prêt à l'accepter. Je rappelle toujours aux gens, la plupart des voitures ne sont plus des voitures, ce sont des SUV. Et la plupart des SUV pèsent 2 tonnes ou plus. Alors quoi, vous voulez revenir à la 2 chevaux? C'était quoi la 2 chevaux? Environ 500 kilos. Ou une petite Fiat Topolino, une demi-tonne. Aujourd'hui, la voiture moyenne pèse 2 tonnes. Donc si vous êtes prêt à rouler en 2 chevaux, à vivre dans un appartement de, 30 mètres carrés, à ne pas prendre l'avion pour aller aux Seychelles en vacances, à consommer beaucoup moins que ce qu'on consomme aujourd'hui. Alors oui, théoriquement, je peux vous construire un monde en 2050 sans qu'on me cible fossile. Mais ça ne sera pas le monde avec un niveau de vie, un confort et une consommation de masse auxquelles les populations occidentales sont habituées et auxquelles les populations des autres pays aspirent parce qu'elles veulent nous rejoindre, pas régresser. Donc en théorie, oui. Mais en pratique, absolument pas.
En un mot, vous nous dites, quelle société voulons-nous? C'est la question qui se pose à Václav Smil.
Oui, exactement. On pourrait faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui, sans aucun doute. On pourrait accélérer la décarbonation. Techniquement, c'est possible. Pas en 2030, ni même en 2050. Mais on pourrait aller beaucoup plus vite. Quand on regarde toutes les projections à long terme, et je le répète, il ne faut jamais faire confiance aux projections à long terme, il n'y en a pas une seule faite par un organisme sérieux, y compris l'Agence internationale de l'énergie, qui d'ailleurs est basée à Paris, qui disent autre chose. Toutes ces institutions disent plus ou moins la même chose. Un peu plus de ceci, un peu moins de cela, mais pas de changement radical. Pas zéro. On pourrait peut-être accélérer, peut-être à 30% de fossiles au lieu de 50%. Toutes les analyses réalistes montrent qu'on n'arrivera pas à zéro. Surtout si on prend en compte qu'il ne faut pas seulement remplacer ce que l'on consomme aujourd'hui, il faut aussi répondre à une demande croissante. La Chine commence peut-être à plafonner, mais l'Inde est en train d'essayer de faire comme la Chine, pour ainsi dire. Et même si elle n'y arrive pas complètement, elle va quand même progresser aussi vite qu'elle peut. Or, l'Inde est encore bien plus pauvre que la Chine. Sa consommation d'énergie va exploser dans les 30 prochaines années. Et ce sera pareil pour l'Afrique subsaharienne et pour d'autres pays d'Asie. On ne doit pas simplement remplacer le carbone d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain, dans des régions comme l'Afrique subsaharienne, l'Inde, le reste de l'Asie, le Pakistan, le Bangladesh, l'Iran. Tous ces pays sont très dépendants des combustibles fossiles. On pourra s'en rapprocher, mais on n'atteindra pas le zéro. C'est quasiment improbable.
Autre terrain que vous arpentez depuis les années 1970 est lié au sujet des énergies et de la durabilité de la terre, c'est celui de l'agriculture. Est-ce que l'agriculture doit, de façon prioritaire, être aussi une des préoccupations majeures de l'humanité aujourd'hui?
Ben oui, absolument. C'est l'énergie numéro 1. C'est l'alimentation quotidienne. Il faut manger tous les jours. Vous n'êtes pas obligé d'aller aux Seychelles. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des SUV. Vous pouvez prendre le métro si vous vivez dans une grande ville. Mais manger, c'est tous les jours. Je le répète sans cesse. L'énergie numéro 1, c'est pas le pétrole brut ou le gaz naturel. C'est l'alimentation. Et pour produire cette nourriture, on est aujourd'hui extrêmement dépendant des combustibles fossiles, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses. La plupart des pays importent ou exportent de l'alimentaire. Tout ce commerce se fait par bateau et tous les navires fonctionnent avec d'énormes moteurs diesel. On n'a pas d'énormes navires transportant le blé ou le soja de l'Argentine ou du Brésil vers l'Europe, ni du blé européen vers l'Afrique subsaharienne fonctionnant autrement qu'avec des moteurs diesel, pas au solaire ou à l'éolien. Et toute cette production, les engrais, ça c'est mon sujet favori, j'ai écrit un gros bouquin là-dessus, sur la synthèse Haber-Bosch de l'ammoniac et la création du monde moderne. Cette production dépend totalement du gaz naturel. L'hydrogène vient du gaz. L'azote vient de l'air. Et vous prenez le N et le H, et sous haute pression et haute température, on fabrique NH3, l'ammoniac, qui est la base de tous les engrais azotés. La plupart des plantes ont besoin d'azote pour produire de bons rendements. Sans engrais azotés, pas d'agriculture moderne productive. La Chine ne pourrait pas se nourrir seule. Si on fait les calculs, on arrive à peu près à ceci. Environ 40% des humains sur cette planète sont en vie grâce à la synthèse Haber-Bosch de l'ammoniac qui est directement liée au combustible fossile, surtout au gaz naturel et au pétrole brut. C'est donc le problème énergétique numéro un, et en même temps un problème directement lié aux fossiles. La production d'engrais, la récolte, la culture, la transformation, l'exportation des aliments, sans parler du commerce de gros et de détail, du stockage, de la vente, de la réfrigération, de l'éclairage des magasins. Tout ça dépend fortement des combustibles fossiles. Comme on dit parfois, on mange tous du pain, en partie, grâce au pétrole brut.
Et dans votre livre, dont je rappelle le titre, « Comment nourrir le monde », tout récemment paru chez ARPA, vous parlez aussi d'autres problèmes liés à l'agriculture que vous recensez. Vous expliquez que l'agriculture est le principal consommateur des ressources en eau de la planète, qu'elle est la première utilisatrice des terres, qu'elle est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Tout cela aussi est au cœur de vos préoccupations.
Oui, et l'agriculture n'est pas seulement un grand consommateur d'énergie, même si ce n'est pas le plus grand, l'industrie et les transports consomment plus, mais tout dépend de la façon dont on compte. Et c'est justement ce que j'essaie de montrer dans mon livre sur l'alimentation. Si on ne regarde que l'énergie utilisée directement par les agriculteurs, ce que les agriculteurs achètent en France, au Canada, ils achètent directement du carburant pour les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les systèmes d'irrigation, c'est très faible. J'essaie de calculer quelle est la consommation totale d'énergie du système alimentaire, parce que la production agricole, il faut la transformer, la réfrigérer, la stocker, la transporter, l'exporter, la vendre dans les magasins, la ramener chez soi, la garder au frigo et ensuite la cuisiner. Donc l'énergie totale du champ à l'assiette, du stockage à la réfrigération, de l'achat au transport jusqu'à la maison, tout le système alimentaire, on ne parle que 2 à 3 % de l'énergie totale, ce qui correspond à l'énergie directement utilisée par l'agriculture, on est plutôt à plus de 20 %. C'est une grande dépense d'énergie, disons environ 20 %. C'est aussi de loin le plus grand consommateur d'eau, 60, 70, 80, et dans certains pays jusqu'à 90 % de l'eau. À l'échelle mondiale, je dirais environ 60 à 70 % de l'eau est utilisée par l'agriculture. Évidemment, c'est aussi le plus grand utilisateur de terre. Donc encore une fois, on a une option. Si on veut accélérer la décarbonation, il faut rendre notre alimentation plus rationnelle. On met tellement d'énergie, tellement d'eau, tellement de terre pour produire cette nourriture. Et ensuite, on en gaspille 40%. Pour moi, ça, c'est le plus grand crime environnemental et humain de cette planète. Produire autant de nourriture pour en jeter presque la moitié.
Surconsommation, surproduction, gaspillage, tout cela questionne de façon urgente nos régimes alimentaires, certes, et puis nos façons d'habiter la Terre, cette planète qui abrite près de 8 milliards d'habitants. Nous allons continuer à en parler avec vous, Václav Smil, mais auparavant, si vous le souhaitez, bien sûr, nous allons découvrir aussi votre univers musical. Vous êtes un amoureux de Mozart et vous nous avez proposé plutôt un concerto pour piano de Mozart. Expliquez-nous votre amour pour cette musique.
En fait, je ne faisais pas tellement attention jusqu'à ce que je rencontre Eva. Elle a toujours aimé l'opéra et la musique en général. Alors j'ai commencé à écouter sérieusement dans les années 70, et là, je suis devenu complètement accro. Et j'ai une collection énorme. J'ai absolument tout ce qui a jamais été enregistré et composé par Mozart. Tout. J'ai environ 500 enregistrements. J'en écoutais tellement que j'ai presque dû arrêter d'écouter. Dans les années 80, quand j'écrivais mes livres, j'en écoutais toute la journée. Aujourd'hui, j'ai passé ce stade. J'en écoute encore, mais plus à si haute dose. Moi, je devrais être la dernière personne à en parler, parce que des gens bien plus compétents ont écrit et parlé de la musique de Mozart. D'ailleurs, j'ai aussi tous les livres jamais écrits sur Mozart. J'ai une collection immense de ce qu'on appelle la Mozartiana. Mais des gens bien plus compétents que moi devraient en parler. C'est une musique tellement paisible, tellement émouvante. Elle fait tout. Je crois que les opéras encore plus que les concerti. Mais honnêtement, presque tout ce qu'il a composé est magique.
Alors pour votre femme Eva, écoutons le concerto numéro 21 par Maria Juan Pires. De cause à effet, suite du magazine de l'environnement sur France Culture, émission spéciale Grand Entretien avec l'une des voix internationales les plus influentes sur les questions d'énergie et de ressources pour une planète durable. J'ai nommé Václav Smil, professeur émérite à la faculté des études environnementales de l'Université du Manitoba à Winnipeg, au Canada, auteur notamment des livres « Comment nourrir le monde » et « 2050, pourquoi un monde sans carbone est presque impossible » paru aux éditions ARPA, et également l'ouvrage « Comment marche vraiment le monde » édité chez Cassini. Selon vous, Václav Smil, quels sont les principaux défauts du modèle agricole actuel d'une manière générale ?
Eh bien, je pense qu'on engage beaucoup trop. C'est pas seulement de la nourriture qu'on produit, mais on perd aussi les intrants pour produire de la nourriture. On perd de l'eau, des engrais, et ça, c'est les deux intrants principaux. Donc, il faut faire beaucoup plus attention en appliquant de l'eau là où c'est nécessaire et quand c'est nécessaire, et des engrais seulement et à la mesure du besoin, parce que pour l'instant, la moitié de tous les engrais azotés qui sont les plus chers, eh bien, tout ça, c'est gâché, c'est perdu. Ça part dans l'air. Même chose avec l'eau. Ça va dans les rivières, dans les océans, ça crée des problèmes. Et donc, nous avons le problème de gâcher de la nourriture, mais aussi, on a du gâchis dans la production de la nourriture.
Et en matière d'intensité de notre production végétale et animale, que pensez-vous ?
Ah, c'est un autre gâchis, bien sûr. On est omnivore, on pourrait manger de tout. Et pas simplement des produits carnés, mais on n'est pas obligé de consommer de telles quantités de viande telles que certains pays le font au cours d'un passé récent. Il n'y a pas besoin de faire ça. Un individu moyen fait 60-70 kilos, il n'y a pas besoin de consommer plus que ce montant, ce poids par an. Il y a des pays où ils mangent 80, 90, 100 kilos de viande par tête. Il n'y a pas besoin de manger tellement de viande parce que c'est totalement inefficace. Et vous voyez, regardez les animaux, on en perd dans la conversion d'énergie. Pour deux unités de viande, on peut produire deux unités de poulet. Mais j'ai besoin de 4 ou 5 unités pour produire 1 kilo de porc. Et j'ai besoin de 5 unités pour produire 1 unité de bœuf. On devrait manger moins de bœuf et plus de poulet, mais en quantité raisonnable. Pas besoin de 100 kilos par an. Il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin d'autant. Il y a beaucoup de façons dont on pourrait devenir plus rationnel sans la révolution végane. On peut utiliser la production de façon plus rationnelle et faire moins de gâchis.
Et cette alimentation carnée, Václav Smil, vous pensez que en faisant moins, on peut aussi faire en sorte de consommer plus d'autres nutriments, d'autres aliments, comme des céréales par exemple ?
Non, c'est autre chose. Il ne faut pas changer une chose pour l'autre, non. On en sait suffisamment sur ce qu'est un régime de santé. On peut manger du sorgho, du riz, des lentilles, des haricots, des fruits, toutes sortes de poissons, toutes sortes de légumes, toutes sortes de viandes, mais en quantité raisonnable. Pas simplement un régime monodiète, vous savez, non. Si quelqu'un mange 60% de riz ou 60% de céréales, c'est pas sain. Il faut de la variété. Il faut de toute chose modérément. Vous savez, il y a des gens qui vivent beaucoup plus longtemps que n'importe qui d'autre, les Japonais, les Espagnols, les Italiens, avec des régimes complètement différents. Les Japonais mangent totalement différemment de l'Espagne, mais ils ont une chose en commun, de tout, mais rien d'excessif.
Et en matière de produits chimiques, Václav Smil, qui génèrent des pollutions, des atteintes à l'environnement, biodiversité, pollinisateurs, déforestation, pollution de l'eau, épuisement des nappes phréatiques, qu'est-ce que vous recommandez? Quelle est votre vision aussi sur ces questions-là pour le monde de demain et pour nourrir malgré tout l'humanité?
Nous avons dans les pays riches, il n'y a aucune excuse pour gâcher autant, parce que dans les pays riches, il y a des façons de vivre très correctement. On peut mesurer l'humidité du sol et appliquer l'eau d'irrigation seulement quand c'est nécessaire. Je dis simplement, aujourd'hui, allez, le mardi, il faut que j'irrigue. Vous n'êtes pas obligé d'irriguer tous les mardis. Mesurez l'humidité et irriguez quand vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'irriguer le champ entier. Et vous pouvez aussi mettre des engrais sur tout le champ. Vous pouvez faire de l'agriculture de précision. Donc, vous pouvez faire ça dans beaucoup de pays du monde grâce aux satellites. Et c'est plus tellement cher. Parce que, par exemple, le prix de l'observation satellitaire a baissé. Donc, on peut mettre de l'engrais sur un tiers du champ. Et puis, on peut minimiser les coûts en faisant ça. Donc, de l'agriculture de précision, autant que faire se peut. Et sous certaines formes, même dans les pays pauvres. Et ils n'ont pas les satellites, mais on peut toujours mesurer des choses et appliquer les engrais là où c'est nécessaire. Donc, avoir une agriculture plus scientifique, et pas simplement de mettre des engrais au hasard. Donc on peut rendre l'agriculture plus précise. On a les moyens de le faire déjà.
Alors avec tout ce que vous nous dites dans vos livres, Václav Smil, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à l'oreille des décideurs, des chefs d'État qui, malgré tout, peuvent aussi influencer le devenir de l'agriculture ?
Par-dessus tout, on n'a pas besoin de produire autant que l'on produit. J'en ai parlé beaucoup. La plupart des gens sont à peu près, savent grosso modo ce qu'est un régime alimentaire. Donc la plupart des hommes n'ont pas besoin de 2500 calories par jour. Les femmes en ont besoin d'à peu près 2100. Et pourtant, l'Union européenne fournit aux petits bébés même et aux personnes âgées plus de 3100 calories par jour, par tête. Et donc à ce moment-là, ça c'est la quantité de nourriture qui se retrouvera sur le marché. Donc, c'est-à-dire 500 calories de plus qu'il n'en faut par individu, multiplié par 365 jours, multiplié par la population de l'Union européenne, on produit beaucoup trop. Et je sais qu'il y a beaucoup de raisons pour cela. Le soutien des agriculteurs, parce que les agriculteurs doivent voter, bien sûr. Mais donc, on n'a pas besoin de faire ça. On a besoin au maximum 2500, 2400 calories. Donc disons, allez, 30% pour la sécurité. On n'a pas besoin de produire 3500 calories par personne par jour. Non, c'est inutile. Donc arrêtons cette surproduction non nécessaire de nourriture. Et ça nous évitera de perdre beaucoup d'argent dans les systèmes de distribution. Mais on n'est pas très sérieux en le faisant. On n'est pas sérieux dans le recyclage non plus, d'ailleurs.
Donc moins de production, moins de consommation, moins de gaspillage et retrouver la raison, c'est ça votre message ?
Tout à fait. Vous savez, ça n'a pas besoin de sacrifice. Il y a tellement de surproduction, tellement de gâchis. On peut réduire tout cela sans souffrir, tout comme dans l'Afrique subsaharienne. Il y a beaucoup d'endroits pour améliorer les choses, mais on ne le fait pas.
On réfléchit bien sûr avec vous aussi aux solutions pour nourrir l'humanité, pour permettre à cette humanité de continuer à vivre sur la planète sans la détruire. Dites-nous quelles solutions peut-être vous pouvez avancer pour gagner en bon sens et en raison.
Écoutez, pour répondre à cette question, il faudrait une bonne cinquantaine de livres. Avant tout, c'est une question d'attente. Moi, j'appelle ça une crétinerie auto-infligée. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Crétinerie auto-infligée. Je suis cuisinier. J'adore cuisiner. Je ne fais pas seulement qu'écrire sur l'alimentation et l'énergie. J'adore aussi faire les courses. Je fais ces petites expéditions, je vais dans plusieurs magasins pour trouver des ingrédients spécifiques afin de cuisiner mes spécialités. Je suis intimement au fait depuis, 60 ans que je fais des courses et que je cuisine. J'ai donc une vraie vision des choses. Et les nouvelles sont pas bonnes. Les gens commencent à réaliser que dans un supermarché nord-américain moderne, et c'est pas très différent, en fait, dans le monde des supermarchés en Europe, dans les magasins de détail, il y a entre 30 000 et 40 000 articles différents dans un supermarché. Je répète ce chiffre, 30 000 à 40 000 produits dans un seul supermarché. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 30 à 40 000 produits? C'était pas comme ça avant. Dans les années 70, il y avait 10 000, 15 000, ce qui était déjà beaucoup trop, mais aujourd'hui 30 à 40 000. Évidemment que le gaspillage est énorme. On n'a pas besoin d'avoir 9 variétés de moutarde. Ça devient complètement absurde, encore une fois. 40 000 produits, c'est comme pour le reste. On a aujourd'hui environ 800 marques de voitures, ou plutôt de SUV, soyons honnêtes. Est-ce que c'est nécessaire? Toujours la même chose. Un moteur à combustion interne, une carrosserie légèrement différente, et maintenant, ce qui est à l'intérieur, c'est juste une batterie électrique. 700 ou 800 modèles. Et tout à l'avenant. Pensez à l'énergie, aux ressources, à l'eau gaspillée pour fabriquer autant de choses qui, au fond, ne sont pas si différentes. Moi, je suis en faveur de la diversité. J'adore cuisiner. Donc, je ne veux pas avoir seulement le choix entre 5 ou 6 choses dans ma cuisine, mais peut-être 500 ou 600 au lieu de 40 000. C'est la première des choses à faire. C'est de commencer à se comporter comme des gens à peu près rationnels et de limiter les choix à des nombres raisonnables. Tout est hors de contrôle. Au passage, il y a aujourd'hui environ 1000 modèles différents de téléphones portables.
Vous-même, on peut le mentionner, vous vivez dans une simplicité technologique. D'ailleurs, vous n'avez pas de téléphone portable. Je crois que vous avez une vie plutôt frugale. Vous cultivez votre jardin. Vous avez finalement appliqué une sorte de limite à la croissance propre.
Non, je n'en ai pas. En fait, oui, je suis désolé. Maintenant, j'en ai un. J'ai dû en acheter un pour une raison très simple. Parce que je travaille depuis chez moi. Et bien sûr, je suis connecté aux ordinateurs de l'université pour avoir un accès aux bibliothèques et toutes aux ressources scientifiques. Donc, je conserve mon lien avec l'université et je me connecte de chez moi. Et pour des raisons de sécurité, ils ont imposé un système où il faut recevoir un code de sécurité sur votre téléphone portable. J'ai donc dû acheter un portable uniquement pour me connecter et accéder au réseau de l'université. Mais voilà un petit secret. Il y a 2 semaines, j'ai trouvé comment contourner le système. Donc je n'ai plus besoin du mobile. Mais je garde le téléphone au cas où ils inventeraient une sécurité encore plus compliquée. Donc je l'ai acheté seulement pour me connecter aux ordinateurs. Mais je ne l'utilise jamais. Donc je ne peux plus dire que je n'en ai pas. Malheureusement, j'en ai un. Mais je ne m'en sers jamais. Je ne suis jamais allé sur TikTok. Je lis juste des articles à ce sujet, mais pas de TikTok. Et je ne suis sur aucun prétendu réseau social, quel que soit leur nom. Je n'existe tout simplement pas sur Internet, à part mon site web, avec la liste de mes livres. Et c'est tout.
Et que pensez-vous justement de cette société qui va vite, ou en tout cas toujours plus vite, entraînée par une surconsommation de réseaux sociaux, d'informations, sans donner forcément le sentiment d'être elle-même suffisamment informée ?
Écoutez, c'est un sujet sur lequel j'écris de temps en temps. Pas trop, mais enfin depuis une dizaine d'années, dans des essais, et dans mon prochain livre d'observation sur le monde moderne. Bien sûr, il y a des millions de personnes comme moi que ça dérange profondément, et au moins des dizaines de milliers qui réfléchissent sérieusement. Pour moi, c'est tout simplement catastrophique. Pour quelqu'un qui a lu toute sa vie, écrit des livres toute sa vie, j'arrive pas à imaginer un monde sans informations longues, détaillées, approfondie, à laquelle on se consacre vraiment, qu'on lit, qu'on relit encore, en essayant de l'aborder sous différents angles. C'est comme ça que la civilisation moderne s'est construite aujourd'hui. J'appelle ça une descente vers le plus petit dénominateur commun. N'importe qui peut regarder des images. Un chien peut regarder des images. Un écureuil peut regarder des images. Les gens sont réduits à regarder des images sur TikTok ou YouTube. C'est vraiment le plus petit dénominateur commun. Évidemment, je suis inquiet. Je suis particulièrement inquiet parce que s'il y a toujours eu des gens qui se fichaient complètement de lire ou de s'instruire, il y en avait aussi toujours qui voulaient être très instruits. Et aujourd'hui, ces jeunes qui arrivent à l'université. Il y a quelques semaines, un sondage d'opinion aux États-Unis a montré que 98 des étudiants utilisaient l'IA pour écrire leurs devoirs. Ils ne lisent pas de livres. Beaucoup d'étudiants de première année n'ont jamais lu un livre. Et 98% utilisent l'intelligence artificielle pour écrire leurs travaux. Bah, je ne veux pas dramatiser, mais pour moi, c'est la fin de la civilisation telle que nous l'avons connue.
Autre inquiétude, les attaques du président américain Donald Trump vis-à-vis des sciences du climat et de l'environnement et sa volonté affichée lors de sa deuxième campagne présidentielle de continuer à forer du pétrole coûte que coûte.
The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill.
Non, non, s'il vous plaît, je ne veux pas entendre ça. Non, je ne veux pas entendre sa voix. Je ne regarde pas la télévision, mais je consulte les infos sur Internet. Je n'ai jamais pensé que je vivrais ça. Nous avons vécu aux États-Unis avant de venir au Canada. Je n'ai jamais pensé être un jour de ma vie le témoin de ce qui se produit aujourd'hui aux États-Unis. Ce qui me dérange, ce n'est pas lui. Il y a toujours eu des gens comme lui. Pas exactement comme ça. Mais il y a toujours eu des gens qui se sont dressés pour dire « Assez !» Ce qui me dérange, ce n'est pas Trump. Ce sont les dirigeants du Parti républicain, les cadres, ceux qui savent très bien ce qu'ils font. Et pourtant, ils ne se lèvent pas pour dire « Ça suffit, tout ça est absurde, arrêtez ça, vraiment !» Ce qui me dérange, c'est ça, le manque d'un minimum d'honnêteté intellectuelle, l'incapacité à simplement dire les choses telles qu'elles sont. Voilà ce qui me dérange. Trump, ce n'est qu'un homme parmi d'autres illuminés. Et alors, il y en a toujours eu. Ce qui me dérange vraiment, c'est que le Parti républicain ait renoncé à son rôle de leadership rationnel. C'est ça qui me dérange. Et encore aujourd'hui, dans les infos, ce soi-disant secrétaire à la santé, Robert Kennedy Jr., il est en train de sabrer les programmes de vaccination. C'est sérieux ? On est en 2026. et le secrétaire à la santé des États-Unis remet en cause la valeur de la vaccination infantile. C'est ça qui m'inquiète vraiment, parce que là, on parle de vie et de mort. Est-ce que j'ai envie de vivre dans un monde sans vaccination? Ces gens sont fous!
Vous êtes à l'opposé, justement, de cette folie. Est-ce que vous pensez que vos vérités dérangent?
Regardez, l'Amérique est pleine de gens qui ne supportent pas ça. Bon, après tout, des millions ont voté pour lui. Mais même parmi les millions qui ont voté pour lui, ils l'ont fait pour toutes sortes de raisons. Mais il y a des sondages d'opinion qui montrent que 60% de ceux qui ont voté pour lui ne sont pas d'accord avec beaucoup de décisions qui sont les siennes, ni avec celles du secrétaire de la Santé. Mais même s'ils approuvent certaines autres choses, les gens votent toujours pour des raisons complexes, que ce soit chez les Républicains ou les Démocrates. En fait, ce qui me dérange par-dessus tout, c'est que l'autre camp a commencé aussi. Les Démocrates tordent leur narratif dans tous les sens. Tout le monde fait ça. Tous ceux qui cherchent le pouvoir tordent la réalité. Je ne sais pas quelle est l'issue possible, parce que c'est devenu tellement omniprésent, tellement normal, que bientôt il y aura tellement de distorsions que même les gens instruits et intelligents n'arriveront plus à s'y retrouver. Les fake news, les bobards sont en train de tout envahir. Quand ils auront vraiment pris le dessus, je ne sais pas ce qu'on fera.
Vous écrivez dans votre livre « Comment marche vraiment le monde ?» Être sceptique quant à l'avenir lointain, c'est être honnête. Il faut engager aussi, et de façon urgente, des politiques d'adaptation au réchauffement climatique, vu cet avenir que vous nous dépeignez.
Comme je l'ai déjà dit, c'est un problème mondial. Le plus gros contributeur à ça, c'est la Chine. C'est de plus loin le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, puis les États-Unis, puis l'Union européenne, puis l'Inde, puis la Russie, etc. Dites-moi, parce que si c'est un problème mondial, il va falloir une coopération mondiale, une coordination, une compréhension et un consensus entre la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Arabie saoudite. Dites-moi, je viens de citer 7 acteurs majeurs. Pouvez-vous me dire comment ces 6 ou 7 grandes puissances, plus l'Union européenne, vont se mettre d'accord sur quoi que ce soit, dans un avenir proche, pour agir vraiment de conserve?
Alors les citoyens ont besoin d'espoir aussi pour agir. Václav Smil, on le perçoit. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Comment faire, concrètement? Bien sûr, on peut agir. On agit déjà d'une certaine façon. J'ai mentionné les véhicules électriques. En Norvège, ça marche bien, parce que l'électricité est bon marché grâce à l'hydroélectricité. En Allemagne, comme vous le savez, un énorme débat. Plus de moteurs à combustion interne après 2035. On a fixé une limite claire. Après 2035, tout doit être électrique. Mais regardez la réaction en Allemagne. Perte d'emplois, bouleversements sociaux. Les constructeurs automobiles allemands sont terrifiés. Ils voient ce qui se passe ailleurs. Regardez l'exemple récent aux États-Unis. Ford vient d'annoncer qu'il a perdu 20 milliards de dollars dans le développement des véhicules électriques. Ils ont obéi aux consignes, ils ont investi, mais personne n'en achète. Très peu de gens achètent des voitures électriques aux États-Unis. Les ventes de Tesla aux États-Unis sont en baisse. Tesla n'est même plus le plus grand fabricant de véhicules électriques. C'est désormais une entreprise chinoise. Aux États-Unis, on offre une prime de 7500 dollars à l'achat d'une voiture électrique. Ça ne marche pas, les gens n'en veulent pas. En Allemagne, les industriels vont à Berlin et supplient le gouvernement. S'il vous plaît, repoussez la fin du moteur thermique après 2035, sinon nos industries vont mourir, et avec elles, l'emploi. Bah, c'est facile d'imposer des limites sur le papier, mais c'est beaucoup plus difficile de vivre avec ces limites, comme le montrent l'exemple allemand et américain. Tout le monde n'est pas la Norvège.
En tout cas, il faut tenir compte de cette complexité. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous dites souvent, Václav Smil, que vous n'êtes ni optimiste ni pessimiste, mais scientifique dans vos travaux. Vous êtes toutefois animé ou traversé par des rêves. Quels sont-ils aujourd'hui?
Du bon sens, encore du bon sens, toujours du bon sens. Rien d'autre que du bon sens. Bah, faisons-le tous. Mais on a perdu ce bon sens parce que les gens ont perdu le contact avec la réalité. La majorité des gens vivent aujourd'hui dans des grandes villes. C'est une civilisation urbaine. À l'échelle mondiale, c'est environ 60%, mais dans les pays riches, c'est plus de 80% des gens qui vivent dans des villes. La majorité des gens vivent dans les villes. Et quand je donne des conférences, je pose souvent cette question. Vous savez, j'ai des salles pleines, parfois des jeunes, parfois des cadres dirigeants de haut niveau, des décideurs de grandes entreprises, des gens qui brassent de très grosses sommes. Je leur demande, avez-vous déjà vu un haut fourneau? Avez-vous déjà vu une cimenterie? Avez-vous déjà vu comment on récolte le blé? Comment on sème le soja? Avez-vous vu comment on abat des poulets? Les gens n'ont jamais vu ça. Ils vivent dans des bureaux climatisés et prennent les décisions. Ils ne savent pas comment le monde fonctionne réellement. Il y a une déconnexion totale entre les décideurs et le monde tel qu'il est vraiment, à la ferme, dans les champs, dans les mines, dans les grandes usines. C'est ce que je supplie les gens de faire. Apprenez comment le monde fonctionne vraiment, ce à quoi nous devons notre existence. Comprenez qu'on ne pourrait pas vivre sans acier, sans engrais, sans production industrielle de poulet. Sinon, le poulet coûterait aussi cher que dans les années 50 et très peu de gens pourraient s'en offrir. Reconnectez-vous à la réalité et vous comprendrez mieux ce qui est possible ou non, ce qu'on devrait faire ou pas faire. Mais c'est sans espoir, parce que les gens préfèrent passer leur temps à regarder les petits écrans sur leur mobile. Je pense que cette bataille est perdue depuis longtemps. Je n'ai aucune illusion. Je suis vieux, mais je ne me fais pas d'illusions.
On vous souhaite quand même de retrouver des illusions, Václav Smil.
Non, je continue quand même. Écoutez, c'est ce qu'on appelle une déclaration hyperbolique dans une conversation à bâton rompu. Bien sûr que je continue, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on regarde autour de soi, les nouvelles ne sont simplement pas bonnes. J'écris en ce moment une nouvelle série d'essais. L'un d'eux porte sur la perte de compétences en lecture, écriture et calcul, sur les faits que les gens ne lisent plus, ils ne savent plus compter. On voit souvent ces sondages. Il y en a eu récemment un en Europe. La moitié des répondants dans l'Union européenne ont déclaré ne jamais avoir lu un livre de leur vie. Sérieusement, si c'est vrai, c'est extrêmement inquiétant.
Merci beaucoup, Václav Smil, pour cet entretien. Et nous garderons en tête votre conseil, retrouver le bon sens.
Absolument. Numéro 1.
Merci beaucoup. Thank you so much. Okay, guys. Bye-bye.
Et je rappelle le titre de vos livres, Comment nourrir le monde et 2050, pourquoi un monde sans carbone est presque impossible, des livres parus chez Arpa. Pour mentionner aussi Comment marche vraiment le monde, un livre édité chez Cassini. Merci à Michel Zlotowski de nous avoir accompagnés et je n'oublie pas également Bénédicte Pastor. Et toutes les références, bien sûr, relatives à cette émission sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet où d'autres podcasts vous attendent à consommer, bien sûr, cette fois-ci sans modération.